France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous à qui je souhaite la meilleure année possible avec des vœux vraiment sincères. Il va falloir qu'on fasse mieux que l'an passé pour beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est le souhait principal. En tout cas, on va s'y atteler et j'espère y contribuer avec une ouverture de saison, si j'ose dire, aujourd'hui, consacrée aux centenaires qui vont arriver, les centenaires dans les jazzmen et jazzwomen qu'on va avoir dans cette année 2022. Tous disparus, malheureusement, mais certains disparus il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu des nonagénaires dans la liste. J'en ai prévu 10 aujourd'hui. Et on va commencer, on va les prendre dans l'ordre chronologique de leur naissance. Il y en a un pour qui la célébration du centenaire aurait eu lieu demain, le 4 janvier. Il était né le 4 janvier 1922 à Kansas City, dans le Missouri. C'est Frank West. Frank West, qu'on connaît comme saxophoniste, bien sûr. Il avait notamment signé un bail chez Count Basie entre 53 et 64, où il côtoyait quelques autres collègues fameux. Mais finalement, c'est comme flûtiste, peut-être, qu'il a été le plus original. Et il a mené de pair ses deux carrières de saxophoniste et de flûtiste, ce qui arrangeait bien les chefs d'orchestre qui l'ont arrangé. Et dans cet enregistrement de 1954, pour le label Commodore, il va être à la fois saxophoniste et flûtiste dans la même plage. Bah oui, bon, c'est facile de passer de l'un à l'autre.
Thank you.
Magnifique Frank West, né donc le 4 janvier 1922. Il était là successivement au saxophone ténor puis à la flûte. Il y avait Henry Cocker au trombone, Jimmy Jones au piano, Oscar Pettiford, tiens, autre centenaire, on l'écoutera tout à l'heure, qui était là à la contrebasse, Ozzy Johnson à la batterie en 1954. Le 8 mai, c'était pour le label Commodore. Autre saxophoniste centenaire en 2022, lui était né le 2 mars, c'est Eddie Lockjaw Davis. Eddie Lockjaw Davis qui avait précédé Frank West dans l'orchestre de Count Basie où il était resté jusqu'en 1953. C'est un peu un cas particulier, mais c'est aussi un témoin de l'époque dans laquelle il a évolué, Eddie Lockjaw Davis. Il était totalement autodidacte sur le saxophone. Et il se revendiquait à la fois de Coleman Hawkins et de Ben Webster. Ben Webster notamment sur les ballades avec beaucoup de tendresse. Et sinon, c'est un des gros sons du saxophone ténor, Eddie Lockjaw Davis, en 1967. De tendresse et d'admiration pour Ben Webster, c'est Eddie Lockjaw Davis dans cette ballade Love is Here to Stay. En 1967, il y avait à ses côtés Paul Gonsalves aussi au ténor, Roland Hanna au piano, Everett Barksdale à la guitare et Ben Tucker était à la contrebasse, et Grady Tate était le batteur. Eddie Lockjaw Davis, qui avait notamment, j'ai oublié de vous le dire juste avant de l'écouter, au milieu des années 60, il s'était associé à Shirley Scott pour développer cette formule de sax ténor et orgue qui est devenue un classique et qui a beaucoup été imité ensuite. L'un des centenaires majeurs du jazz en 2022, ça va être le 22 avril, le centenaire de Charles Mingus. Charles Mingus, contrebassiste, pianiste occasionnellement, je me souviens que Nathalie Piollet, vous l'avez écouté il n'y a pas très longtemps, et surtout compositeur et leader. Il était né à Nogales, en Arizona, et il a grandi ensuite il a fait son début de carrière sur la côte ouest des États-Unis. Et il est mort finalement assez tôt, Charles Mingus, à 56 ans, en 1979, à Cuernavaca, au Mexique, au pied d'un volcan. Il avait voulu finir ses jours dans ce décor-là. S'il a été souvent indigné par la situation des Afro-Américains, ça a été un militant de l'indépendance artistique aussi, Charles Mingus, qui avait créé le label Debut pour réagir face à ce que lui imposaient les multinationales. Il a symbolisé toute sa vie un pan engagé dans l'histoire du jazz, mais c'était aussi un énorme son sur la contrebasse et une profonde connaissance du patrimoine chez Mingus, parce qu'il faut se rappeler qu'il est peut-être l'un des plus vibrant continuateur d'Ellington et un peu le chaînon manquant entre Ellington et Wynton Marsalis. Il y aurait Charles Mingus comme intermédiaire possible. Il avait grandi dans la musique classique qu'il adorait et quand il composait, c'était très enraciné dans le blues et dans la culture afro-américaine. Comme ici, dans son disque Blues and Roots, la prière du mercredi soir. Thank you. février 1959, dans les studios atlantiques de New York City, l'album Blues and Roots de Charles Mingus. Charles Mingus naît donc lui aussi en 1922, le 22 avril, à Nogales, en Arizona. Et c'était sa Wednesday Night Prayer Meeting. Dans cet album très enraciné par définition, il y avait à côté de Charles Mingus deux saxophonistes, quatre saxophonistes, dont le grand soliste au ténor qui était Booker Ervin. Il y avait aussi à l'alto John Andy et Jackie McLean, Pepper Adams au baryton, pour donner un son un peu particulier à l'ensemble, Jimmy Nepper et Willie Dennis au trombone, Danny Richmond était à la batterie, et le bassiste avait fait appel à Horace Parlan au piano pour l'essentiel de ce disque. Mal Waldron est présent sur une des compositions, mais pas celle-ci, dans le disque pour les amateurs de précision. Autre centenaire, celui-là est européen, mais il a fait une grande partie de sa carrière à New York, c'est Toots Thielemans. Toots Thielemans qui était né à Bruxelles le 29 avril et qui est disparu en Belgique à l'âge de 94 ans, il n'y a pas si longtemps, en 2016, c'était pendant le mois d'août. Toots Thielemans qui a ce paradoxe incroyable d'être un immense harmoniciste et d'avoir toute sa vie souffert de l'asthme. Il avait été aussi guitariste, il avait d'ailleurs commencé sa carrière comme guitariste avant de passer à l'harmonica. Il avait même tout petit, à 3 ans, démarré par l'accordéon. Et puis, quand il est parti aux États-Unis au début des années 50, c'était en 51, il a émigré très tôt et il s'est immédiatement fait reconnaître parce que l'harmonica dans le jazz à New York, ça n'existait quasiment pas. L'harmonica était associée au blues et il a trouvé une carrière où il a pu jouer avec Dinah Washington ou Shirley Horn, avec Oscar Peterson ou Bill Evans. Et bien, tiens, le voici avec Bill Evans en 1979. Thank you. À l'automne 1978, l'album était sorti l'année suivante, Bill Evans au piano, avec notre centenaire de l'année 2022, Toots Thielemans à l'harmonica, Mark Johnson à la basse et Elliott Zygmunt à la batterie pour tenir la chandelle. C'était Toots Thielemans, né le 29 avril 1922 à Bruxelles.
Open Jazz, Alex Dutil, France Musique.
Et quand on voit le lieu de naissance de Kay Winding, le tromboniste, 18 mai, à Aarhus, en haut Danemark, on se dit, mais tiens, je n'avais pas remarqué qu'il était européen. Et pour cause, il a déménagé très tôt avec ses parents à New York. C'est là qu'il a grandi, c'est un faux européen, Kay Winding. Et après ses débuts, comme ça se faisait beaucoup dans ces années-là, chez Benny Goodman et puis Stan Kenton, il a inauguré un quintet très particulier à deux trombonistes, avec J.J. Johnson. C'était assez gonflé pour l'époque. Et ils ont donné tous les deux, par égal presque, une totale légitimité au trombone dans le bebop dont on le croyait absent, tellement Gillespie pour la trompette et Parker pour le saxophone avaient imposé des codes. Et Kay Winding était même allé plus loin, puisque dans la foulée, il avait créé un groupe à quatre trombones. L'absence de vibrato, ça a toujours été une de ses signatures, comme ici à ses débuts, en 1949, sur une de ses compositions, ce qui s'appelle tout simplement Harem Buffet. C'est pas Harlem. Je me suis dit, il y a une coquille. Pas du tout. Vous allez voir, il y a un petit côté oriental. Thank you. Kay Winding en 1951 au trombone dans une de ses compositions, Harem Buffet, avec Bruce Moore au saxophone ténor, Lou Stein au piano, Chuck Lesberg à la basse et Don Lamonde à la batterie. Kay Winding naît donc le 18 mai 1922 à Aarhus au Danemark et décédé à New York, la ville où il a passé toute sa vie, le 6 mai 1983. Il avait 80 ans. Jackie Bayard, on a entendu Mingus tout à l'heure, Jackie Bayard largement associé à Mingus. Lui, il était né un 15 juin 1922 dans le Massachusetts et on le connaît comme un pianiste étincelant chez Mingus dans les années 60, mais on a oublié qu'il avait démarré comme un polyinstrumentiste forcené. Il jouait aussi, Jackie Bayard, du saxophone, de la trompette, de la contrebasse, du violon, du trombone, de la guitare et même de la batterie. Et si vous ajoutez à ça un éventail grand angle de collaboration qui traverse toute l'histoire du jazz, de Earl Hines à l'avant-garde, ça explique son côté foisonnant et éclectique comme pianiste.
Thank you.
Cinco y Cuatro, c'est Jackie Bayard. Jackie Bayard dans son album Empirical avec Ron Carter à la basse et c'est extraordinaire, Roy Haynes à la batterie, jouant pas au batteur de jazz mais jouant au percussionniste dans un 5-4 proposé par Jackie Bayard. Jackie Bayard, le pianiste, là en 1961, qui était né donc un 15 juin 1922, décédé en 99, il avait 76 ans. Du côté de l'Oklahoma, naissance le 30 septembre 1922 d'Oscar Pettiford. Une particularité dans l'histoire du jazz, c'est un des rares Amérindiens dans l'histoire du jazz, comme Jim Pepper ou Don Cherry. Oscar Pettiford, d'abord connu comme contrebassiste, peut-être celui qui a été le premier contrebassiste moderne après l'immense Jimmy Blanton dans la contrebasse classique. Et puis surtout, ça a été le premier violoncelliste conséquent dans l'histoire du jazz. Adidonk Blues. Absolument charmant, ce Adidonk Blues signé Oscar Pettiford au violoncelle. Mais il y avait un autre centenaire de 2022 à ses côtés, Charles Mingus qui était à la contrebasse, Billy Taylor au piano, Charlie Smith à la batterie en octobre 1952. Ça a été réédité chez Fresh Sound il n'y a pas très longtemps et l'album a un nom absolument manifeste, In a Cello Mood. Voilà, un grand violoncelliste. Je ferai écouter, je pense, dans pas très longtemps à Frédéric Laudion qui devrait adorer ça.
Open Jazz, Alex Dutil, France Musique.
C'est quand son fils a fait carrière qu'on a découvert à quel point Von Freeman était un saxophoniste important. Il est un peu passé longtemps sous les radars parce qu'il a guère quitté Chicago, la ville où il est né, le 3 octobre 1922. Il est décédé en 2012 à Chicago à l'âge de 88 ans. Ça a été une icône sur place toute sa carrière. Il a beaucoup joué dans les clubs de Chicago où il accompagnait les grands musiciens de passage. dès Charlie Parker. Il a fait partie des débuts de l'orchestre de Sun Ra. C'est Rassane Roland-Kirk qui a produit son premier album à Von Freeman. Et voilà qu'en 2001, il publie un album qui s'appelle The Improviser avec un solo de saxophone ténor sublime de 6 minutes.
Thank you.
en maître absolu, jouant dans son jardin de Chicago, Chicago Cultural Center, en décembre 2001, saxophone, ténor, solo, sur le standard If I Should Lose You, Von Freeman. On a compris que c'était un immense saxophoniste, né le 3 octobre 1922 et disparu à 88 ans. Une jazz fan au sens le plus actif du terme toute sa vie durant, Lorraine Gordon. Lorraine Gordon naît elle aussi en 1922, le 15 octobre à Newark, dans le New Jersey. Et elle avait d'abord, à 20 ans, épousé Alfred Lyon, le cofondateur du label Blue Note. Et puis, quand elle a divorcé, quelques années plus tard, en 1949, elle a épousé Max Gordon, le propriétaire du village Vanguard. Elle a été à côté de lui, Lorraine Gordon, elle a été à côté de son mari, la co-directrice artistique du village Vanguard. Et quand il a disparu, quand elle est devenue veuve en 1989, elle a pris toute seule les rênes de ce qui est le temple du jazz à New York, le village Vanguard. Elle était installée à la table qui marquait la sortie des loges, en bas de la volée de marche, quand on entrait dans le village Vanguard. C'était la première table sur la gauche. Elle avait un rouge à lèvres pimpant, l'œil malicieux et la vue défiler le Gotha du jazz. Et quand Chucho Valdés s'est retrouvé au village Vanguard, il lui a dédié cette habanera, Lorenz Habanera. Banera, imaginée par Chucho Valdés pour Lorraine Gordon, la patronne du village Vanguard, qui devait le regarder avec sourire et yeux écarquillés. Ce jour-là, c'était en avril 1999, au village Vanguard. C'était pour clore notre série de musiciens dont on va célébrer le centenaire sur l'année 2022. Là, j'ai un peu triché, elle n'était pas musicienne, mais ça a été une muse pour beaucoup de musiciens. Lorraine Gordon, qui les a inspirés par l'âme qu'elle avait mis, comme son mari, Max Gordon, dans ce village Vanguard. Avec moi pour faire cet open jazz sur France Musique, Sweat Bucorsa, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora. Demain, dans Open Jazz, du miel dans les oreilles. Ça sera Paul Desmond, les The Complete 1975 Toronto Recordings. Quand je dis du miel dans les oreilles, il va couler comme du miel dans votre gosier.
À réécouter sur francemusique.fr.